L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Elisabeth Hin, auteure du livre « Oiseau en cage, la Shoah selon le legs de ma mère ». Elle est à Strasbourg dans le cadre du projet Valise Mémoire mené par Francine Méran. C'était ce mardi 18 juin. Elisabeth Hin, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir. Vous me disiez, vous venez du coin des Corbières, vous avez plein d'origines, vous êtes franco-norvégienne, vous avez vécu longtemps aux États-Unis. C'est à l'image de votre famille et des traces qu'on va suivre dans ce livre qui part de Vienne, en Autriche, où vos parents se sont rencontrés avant de partir pour Shanghai en 1938, lorsque Hitler a envahi l'Autriche et que c'est devenu, on va dire, non confortable, c'est un gentil mot pour les Juifs. Il décide de partir à Shanghai, en Chine. C'est un choix un petit peu étrange. C'est une terre assez hostile également. Pourquoi le choix de Shanghai ?
Bon, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est Shanghai parce que mes parents, qui étaient d'origine de Vienne, en Autriche, n'avaient pas d'autre possibilité de trouver un refuge dans un autre pays. Mes parents ont vu les rafles des Juifs en 1938 et ils ont très, très vite compris que la vie pour les Juifs dans ce pays, ce n'était pas possible. Alors mon père, qui avait vraiment la fortitude et la perspicacité de trouver des solutions, a cherché à droite et à gauche. Et la Chine, et notamment Shanghai, était le seul endroit où il ne fallait pas avoir un visa spécial. Donc, en octobre 1938, ils sont allés à bord du paquebot Conte Rosso avec destination Shanghai. Ils ne savaient pas du tout ce qui les attendait et ils les attendaient pas mal de choses.
Alors, vos parents, Julius et Iluche, je le disais, sont partis à Shanghai et de là, ils vont mener une correspondance avec le reste de la famille, restée à Vienne pour certains, à Berlin pour d'autres, pendant cette guerre interminable. Et c'est d'après ces lettres, que vous allez retrouver, que vous allez écrire ce livre, Oiseau en cage, le legs de ma mère, la Shoah selon le legs de ma mère. Ces lettres, vous en aviez connaissance très tôt ou vous les avez découvertes sur le tard?
Exactement. Alors, moi, je représente la génération d'après-guerre. Donc, je n'ai pas connu la guerre, mais j'avais la chance d'avoir des parents qui ne cachaient pas ce qu'ils avaient éprouvé avant, pendant et après la guerre. Et les lettres de ma mère ont été discutées depuis que je suis toute petite. Alors, je savais qu'elle les gardait soigneusement pendant toutes les années et tous les voyages qu'ils ont faits dans tous les pays. Donc, je savais qu'elles existaient, mais c'est après son décès, quand on a nettoyé la maison, que je les ai trouvées bien empaquetées, bien ficelées, dans une malle, et c'était marqué en anglais « Ne brûlez pas ces lettres, c'est la fin de ma famille ». Alors, ça m'a fait beaucoup impression. Je les ai amenées avec moi aussi, dans mon pays maintenant d'adoption, la Norvège, et il m'a fallu des années pour avoir le courage et l'esprit émotionnel pour m'attaquer à ces lettres. Donc, ces lettres et les lettres de l'oncle de ma mère donnent en quelque sorte le noyau du livre, mais qui est complémenté par d'autres choses. Une recherche assez soutenue et une collaboration avec un journaliste de Bild. C'est le journal de Axel Springer.
Alors, dans votre famille, quels sont les membres, quels sont les protagonistes qui ont alimenté cette correspondance et quel est leur... Alors, on va faire ça dans les grandes lignes, évidemment, mais ils sont restés sur place. De quelle façon ils ont été impactés par la Shoah?
Eh bien, c'est une famille qui a été très, très proche. C'est une famille qui consistait à la grand-mère, qui était en quelque sorte la mère juive très morte, très typée. Et elle avait trois enfants, donc l'aînée qui était Hermine, donc ma mère maternelle, et une deuxième qui s'appelait Jula, qui est restée avec sa mère et qui s'est fait déporter finalement parce qu'il ne voulait pas la quitter. Et la troisième, Rudy, le petit, qui était le commerçant, qui était le membre de la famille qui a réussi sa vie à plusieurs étapes. Donc, c'est une famille qui était très, très, très liée à Vienne. Et avant la guerre, il y avait beaucoup de réunions avec les membres de la famille et même d'autres. Lorsque l'Anschluss a fait la continuation de cette famille très liée, beaucoup plus difficile, il y en a deux qui sont allés à Prague, la grand-mère et son fils qui est resté chez elle, et l'autre, le troisième, qui a essayé par tous les moyens d'aller en Chine aussi avec ma mère. L'histoire de son voyage est vraiment rocambolesque. Il a fini quand même par venir en dernière minute en prenant le Siberian Express dans tous les pays qui ont été occupés par les nazis. Mais étant donné que l'Union soviétique avait encore le pacte de collaboration avec ces pays, ils ont laissé cet oncle et sa fille passer. Ils ont mis peut-être plus qu'un an pour regagner la Chine. Donc en Chine, il y avait le petit frère, ma mère et mon père. La mère de ma mère est restée à Vienne et elle a été déportée en 1942 avec les trois qui sont restés à Prague.
Donc la famille a été déportée, votre mère et votre père sont restés à Shanghai, ils sont revenus après, ou est-ce que cet accent américain qu'on devine derrière vos mots, c'est la suite du trajet, ils sont partis aux États-Unis?
C'est ça. À la fin de la guerre, c'est mon père encore qui cherchait des sorties, et ils ont dit, on va quitter Shanghai après 9 ans. 9 ans, ils sont restés. J'ai un frère en Argentine, on va aller au Buenos Aires. Donc, ils sont partis avec mon grand frère qui est né à Shanghai et qui ne parlait pas anglais, ne parlait pas espagnol, il parlait allemand à la maison. Et ils sont allés à Buenos Aires pour essayer de trouver une autre solution. Au bout de quelques mois, mon père a dit, on va aller plus loin, je connais quelque chose au Paraguay. Donc au Paraguay, ils se sont installés à Asunción. Et à Asunción, elle est tombée enceinte de moi. Et encore une fois, mon père a dit, ah, on va chercher un visa touristique pour les États-Unis. Alors ma mère, 8 mois enceinte, se présente au consulat américain d'Asunción avec un manteau de fourrure pour cacher son ventre. Vous vous rendez compte, on a Asunción avec le salaire qu'il fait. Et elle a eu ce visa. Un mois et demi après, je suis née aux États-Unis. Et à cette époque-là, il y avait le droit de sol. Donc, j'avais automatiquement la nationalité américaine. Donc, c'est moi, en quelque sorte, qui était le passeport pour ma famille.
Mais aujourd'hui, vous vous présentez comme franco-norvégienne. Donc, vous êtes partie après en Norvège. Alors, vous le disiez, très, très petite communauté juive aujourd'hui, un peu plus de 2000 membres répartis sur tout le territoire. C'est l'idée, justement, de faire vivre aujourd'hui cette mémoire juive, cette tradition, cette culture juive.
Au départ, c'était très, très étrange pour moi, parce qu'en étant new-yorkaise pendant 22 ans, je n'avais pas du tout le sentiment de vivre comme une minorité. Et en arrivant en Norvège, où En la capitale, il y a peut-être 700 juifs, sur le pays en entier, peut-être 1200, 1300. Je me disais que c'est quand même bizarre. Je voyais d'abord une génération qui était plus ancienne que la mienne, qui essayait de ne pas trop dire. Parce que c'était les gens qui étaient déjà de la génération de la Shoah. Alors, et puis, comme ils étaient en Norvège, pendant peut-être deux générations, ils venaient de la Lituanie, de la Pologne, etc.
Et une immigration de l'Est, alors.
Voilà. Alors, les peu de gens qui sont rentrés, parce qu'ils étaient, très, très peu. Ils ne voulaient pas trop. Ils ne voulaient pas trop faire de bruit. Mais au fur et à mesure, maintenant, il y a une troisième génération. Moi, je suis la génération d'après. Il y a la génération actuelle qui n'a pas du tout cette idée. Ils sont très actifs à faire connaître le judaïsme, de chercher leurs origines. Ils voyagent beaucoup, ils organisent des stages. Et surtout, dans la situation actuelle, c'est très important de ne pas faire comme nos anciens ont fait, avec raison, ils avaient leur raison. Mais ça devient vraiment une communauté, une toute petite communauté qui se fait entendre.
Qui se fait entendre et qui transmet cette histoire. Alors, on parlait de culture et de tradition, mais cette histoire dramatique de la Shoah, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est transmis. Vous êtes une passeuse de mémoire.
Je l'espère.
Oui.
Si j'ai écrit ce livre, c'était dans l'optique de raconter leur histoire. Mais comme tout le monde le sait, quand on perd nos chers, ils meurent deux fois. Ils meurent physiquement. Et quand on perd leur mémoire, ils disparaissent pour toujours.
Merci Elisabeth Hine. Donc, je rappelle, vous êtes l'auteur du livre « Oiseau en cage, la Shoah selon le legs de ma mère ». Alors, je le disais, vous étiez ici dans le cadre du projet Valise Mémoire mené par Francine Méran. C'était mardi dernier à la chapelle Place de l'Hippodrome à Strasbourg. Ce livre raconte l'histoire de votre famille. Il va au-delà d'ailleurs de l'histoire de la Shoah, de cette correspondance menée entre les membres de la famille jusqu'à dans les années 60, parce que Berlin a été coupé et que cette histoire, elle aussi, vous a beaucoup impacté. Alors évidemment, j'invite nos auditeurs à pouvoir se procurer votre livre pour connaître l'histoire de cette famille. Alors je veux dire, l'histoire, c'est votre histoire, mais qui rentre aujourd'hui dans la grande histoire. C'est un témoignage important, donc étayé par toutes ces lettres, cette correspondance entre les membres de votre famille. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Elisabeth Hine. Et puis, j'invite évidemment les auditeurs à se procurer ce livre. Il est en librairie.
Il peut se commander par amazon.fr.
Écoutez, sur Amazon, Oiseau en cage, la Shoah, selon le legs de ma mère. Merci à vous.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.